Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Tech & Co, la quotidienne, 20h33 en ce jeudi, c'est la dernière de la saison et nous terminons cette émission bien avant le 14 juillet en feu d'artifice avec Cédric Ingrand qui est là. Cédric qui est, rappelons-le, directeur général de Heavyweight Studio et journaliste tech. Jean-Baptiste Kampf qui est le fondateur de Kyber. Christophe Honnête, senior advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft France Asie du Sud. Et bien sûr, Frédéric Simotel. Les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Fred, on va pas commencer par toi, parce que tous les soirs, tu as des coups de cœur et des coups de gueule. Donc là, on va écouter évidemment les tiens, mais laissons peut-être la primeur à Christophe Honnête. Christophe, ton coup de cœur pour débuter.
Alors moi, mon coup de cœur, en tout cas, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur à cette industrie que je trouve finalement assez formidable, parce que même s'il y a
c'est
beaucoup...
C'est l'industrie de la RAM.
Non, l'industrie de la tech, de l'IA, tout cet écosystème qui est assez fascinant, qui nous occupe pas mal au cours de cette saison.
Ça, c'est clair.
D'une certaine façon, on a été monomaniaque avec Musk à un moment donné, puis monomaniaque avec ChatGPT. Et là, on voit que ça s'est considérablement animé parce qu'en fait, il y a un véritable bouleversement de la chaîne de valeur avec peut-être... On en a parlé tout à l'heure, les acteurs effectivement des processeurs et de la RAM qui sont bien établis et qui sont bien ancrés, on n'a pas trop de doutes. Mais au-dessus, les LLM, le logiciel, les agents, les acteurs de l'intégration, du conseil, à chaque étage, il y a des challenges et il y a des positions évidemment fortes, plus fortes les unes que les autres parce qu'ils ont les poches plus ou moins profondes, mais on voit que ça tangue. Il y avait un article dans The Information aujourd'hui qui était assez intéressant où il montrait à quel point tous les acteurs, ils cochaient les cases de tous les business qu'ils avaient, tous les acteurs se mettaient à faire un peu le business des autres parce qu'on est dans une phase aujourd'hui d'incertitude en se disant finalement, il y a un bouleversement de la chaîne de valeur, où va être captée cette valeur, par qui? Est-ce que un Palantir dit bah finalement vous n'avez plus besoin de logiciel, vous embêtez plus, vous prenez de l'IA et puis ma plateforme et je vous développe ce que vous voulez. On voit aujourd'hui, moi je vois dans beaucoup de petites entreprises, moyennes entreprises, des gens qui au cours d'un week-end développent un nouveau CRM, ils se débarrassent de Salesforce, de Spot. Il y a une énergie créatrice. Alors, il y a créé beaucoup de bazar, il y a de la scalabilité, de la sécurité, plein de problèmes.
C'est un peu comme l'arrivée du PC en son temps.
On a une sorte de foisonnement.
Non, mais c'est vrai.
On a une sorte de foisonnement, je trouve, assez enthousiasmant et à observer et de se dire finalement comment. Parce que la valeur, au bout du compte, ce sera celui qui captera la valeur vue du client. Et la course est ouverte et je trouve ça fascinant et je me réjouis de pouvoir participer au travers de nos discussions à ces réflexions.
Et on est surtout tellement heureux de t'avoir régulièrement, Christophe.
Il n'y a pas de ligne d'arrivée en fait, en plus.
Non, c'est clair. C'est clair. Alors, c'était très positif quand même, le coup de cœur. On est d'accord. Ben, vous savez quoi, on va écouter celui maintenant de JB, qui d'habitude est un peu ronchon, vous savez. Mais après, bon, on verra son coup de gueule après, cela dit. Mais là, tu veux nous parler de cet élan de positif de la tech française souveraine.
Ouais, exactement. Moi, je suis quand même positivement surpris. Moi, j'ai l'impression que je parle de souveraineté depuis 15 ans, tu vois. Et ça part dans tous les sens, c'est clair. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a déjà pas mal de petites boîtes de logiciels, d'éditeurs qui se réveillent. Alors que ils s'étaient pas trop bougés pendant très longtemps, ils étaient un peu plan-plan, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis énormément de moi ce que j'appelle avec quelques-uns de mes copains French Tech 2.0, c'est-à-dire des gens qui font de la tech quoi. Et on est vraiment pas à la limite de la deep tech, on y va, on ose, on fait des trucs de plus en plus compliqués, que ce soit Amilabs, ZML, Kyber, Huma, etc. On y va sur des gros bêtes. On a l'INRIA qui a l'air d'être quand même hyper forte à spin-off plein d'idées, des maestros, des choses comme ça. Donc il y a une vraie nouvelle vague de je fais des vraies entreprises tech et pas je mets de la tech dans une des verticales et j'enlève tous les intermédiaires pour faire un SaaS. On l'a vu, ok, c'est très cool, mais on voyait un peu que ça, et la French Tech, c'était que ça. Et là, on fait de la tech française, et je suis assez content de le voir. D'ailleurs, aussi, un petit truc un peu rigolo, c'est qu'il y a quand même, ça bouge beaucoup à Paris. Alors qu'habituellement, en fait, tu disais quand même que les startups c'était quand même pas Londres et Berlin. Bah là, en fait, c'est quand même pas mal Paris et Munich, quoi. Donc c'est, ça, c'est, je trouve, et des ingénieurs qui y vont, quoi. Et ça, ça c'est cool.
C'est plutôt positif, non, tout ça. Positif.
Bah, tu me demandes un coup de cœur.
Non, mais t'aurais pu dire, je sais pas moi, l'IA, c'est génial, etc. Là, c'est, en plus, c'est très positif ce que tu dis et plein d'optimisme pour la suite, en tout cas. Parce que c'est vrai que.
On a un an de la présidentielle, donc on va être positif.
Ouais. Non, mais.
Okay.
Après, il faut de l'argent. Et qu'est-ce qui est, à ton avis, qu'est-ce qui est différent depuis 12 mois d'avant, finalement?
C'est pour moi en fait c'est un changement de culture et un changement de mindset qui est en fait finalement bah tu vois c'est ta deuxième génération d'entrepreneurs, tu vois. C'est-à-dire que tu vois d'ailleurs arriver avec des investisseurs français, des clubs d'investisseurs qui sont principalement des gens en fait qui ont déjà fait de l'argent dans la
voilà,
tech.
C'est plutôt la deuxième génération voilà. d'investisseurs.
Et tu vois, c'est des gens qui ont fait une exit. Mais tu vois, je vais pas donner de nom, mais tu vois des gens que bah Color, Datadog, Dataiku, des gens qui sont partis, qui ont fait des exits ou pas, qui ont fait du secondaire et qui investissent et eux c'est des entrepreneurs et pas mal et ils croient à la tech et ils voient que la tech est un différenciant donc investissent dans des choses un peu plus tech voilà et puis autour des écoles je trouve pas mal des écoles d'ingénieurs et au sens large hein, pas au sens français mais au sens tous les gens qui font de l'informatique des maths etc tu as plein de gens et on leur donne des exemples regarde lui il a été ingénieur il a vendu etc et c'est pas juste énième fois un HEC qui arrive et il cherche un CTO là c'est le CTO qui va non mais c'est hyper important tu regardes les entreprises de la tech américaine à part Oracle qui est la pire boîte au monde
je confirme
c'est tous des techs tu vois c'est tous des techs ils ont tous une base tech tu vois et ils reviennent et Google y revient et puis Satya y revient et tu sens que ils aiment ça ils aiment faire des choses différenciantes or la vraie valeur elle est sur des choses où tu bouges l'état de l'art parce que t'as un vrai différenciant ouais.
Cédric Ingrand, son coup de cœur. Alors, vous allez voir, moi, quand je l'ai lu, j'ai dit waouh!
Mais oui.
Incroyable.
Non, en fait, je me suis posé une question différente de la vôtre. Vous êtes sur les trucs très systémiques et c'est très bien. Moi, j'ai regardé mon téléphone et j'ai dit.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pas de nouveau, mais qu'est-ce que j'ai utilisé cette année que j'utilisais peut-être pas les années précédentes ou avec plus de plaisir? Et j'ai trouvé une app. Pas beaucoup, hein, parce que maintenant, on est tous vieux, on a des habitudes, on utilise toujours les mêmes trucs. Il y a peu d'applications vraiment nouvelles et intéressantes que j'ai pu utiliser cette année en dehors des LLM et du reste. C'est Threads. Et alors, je vais dire. Tu peux pas me soupçonner d'être amoureux de Meta. Il y a peu d'entreprises au monde que je méprise plus que Meta. Une entreprise absolument malfaisante.
Mais tu fais du mal alors, finalement.
Et ben, pourquoi Threads? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que X-Twitter est devenu complètement toxique. Blue Sky, c'est devenu juste l'endroit des gens qui disent, vous avez vu, on n'est pas sur X-Twitter. Enfin, ça peut pas être la seule qualité. Tu vois ce que je veux dire?
Sur LinkedIn.
Ça réduit la discussion.
C'est un peu comme l'enseigne ici, pas comme en face, tu vois. Oui,
ouais,
bon, d'accord.
Ok, d'accord, mais bon.
Et moi, un jour, je suis allé sur 13 comme ça, quand ils l'ont lancé après 2023-2024. Au début, il fallait l'attacher à ton compte, à ton compte Insta, c'est sûr. Bon, depuis, ça s'est arrangé. Et alors, je pense que Threads est une plutôt bonne application. D'abord, parce que les gens qui y vont souvent, ils sont sous leur vrai nom, parce que c'est le nom hérité de leur compte Meta, Facebook ou autre chose. Donc, les gens écrivent moins de bêtises. Et puis aussi, je pense que c'est parce que Zuckerberg a oublié qu'il avait Threads. Donc, en fait, tant qu'il s'en occupe pas, tout va bien se passer.
Tant qu'il dépense des dizaines de milliards dans l'IA,
oui, c'est
Threads
ça.
Pour lui...
C'est ça, et c'est devenu un truc un peu civilisé. C'est pas comme un clone de Twitter, c'est ça, et puis c'est un peu Reddit aussi sur les forums, c'est-à-dire que c'est moins politique que le reste, c'est plus... tu peux vraiment te recréer un cercle, je dirais pas d'amis, mais... voilà.
Donc tu vas sur Threads?
J'y vais tous les jours.
Ok.
Mais sans être forcé.
Non mais alors que j'ai beaucoup moins
comme il est tout seul, il est tranquille. Par rapport à ce qu'il
veut. C'est pas vrai, il y a plein de gens très bien.
Non mais c'est rigolo parce que moi qui suis plutôt sur Insta.
Ah oui mais bien sûr énormément.
En fait quand tu es sur Insta et rappelons que Threads est parti au même groupe qu'Insta, Insta te pousse à aller sur Threads de manière presque.
Ah bon?
Ouais. Moi chez moi c'est dingue. Tu vois par exemple dans mon fil d'actualité Insta, parfois je vais dire bah tiens Frédéric Simotel a écrit ça sur Threads. Ah tu dis waouh je clique parce que ça doit pas être l'IA de Fred, c'est vraiment Fred. Paf, je clique et j'arrive sur Threads.
Bah, pour
et après
dire,
tu commences à scroller sur Threads.
Et là je retrouve Cédric Ingrand.
Et là je retrouve Cédric Ingrand.
Pour te dire, moi j'ai l'impression que c'est Threads qui essaie de me pousser à aller sur Insta. Je pense que
les algos
sont assez perméables.
Tu vas sur Threads ou pas?
J'ai testé, mais au tout début.
Et puis t'as laissé tomber. Voilà.
Bon, pour moi, c'est absolument horrible. C'est comme Twitter. même si c'est vrai que j'aurais pu trouver un autre coup de gueule cette année. C'est LinkedIn, quoi. LinkedIn.
Alors attends. Mais non,
c'est pas le mien. Mais c'est vrai que tu vois, les réseaux sociaux.
Si, écoute, si t'es gentil, qu'on a assez de temps, tu pourras avoir tes deux coups de gueule.
Non, mais c'est pas ça. Ouais. C'est qu'en fait, sous ces réseaux sociaux, c'est trop fake. C'est vraiment trop fake, quoi. Donc, tu vois que le bon des gens ou ce qu'ils veulent bien te raconter. Et moi, si je peux en faire moins, je me porte mieux.
Fred,
moi, c'est mon coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, c'est je commence à entendre un peu de l'IA bashing, vous dire mais l'IA, ça sert à quoi, etc. Et tout ça. Et donc, moi, je voulais rappeler que l'IA, quand même, au service des scientifiques et des chercheurs, c'est un outil absolument incroyable. On a Donald Knuth, qui est un grand mathématicien.
Pardon ?
Donald Knuth.
Donald Knuth. Okay.
Qui est un des grands mathématiciens. Il a été prix Turing. Et lui croyait.
On voit pas ce qu'il
Monde diplomatique, en grand, là, depuis ce matin, tout le monde déteste l'IA.
Bah voilà, tu vois. Et moi, c'est un peu remettre tout ça, c'est de dire qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, ces chercheurs, donc je parle de Donald Knuth, il est arrivé il a 88 ans, il a fait des recherches en mathématiques depuis toujours, prix Turing et tout ça, et là, il est arrivé à résoudre des équations qu'il avait dit de mon vivant, je pensais que j'aurais jamais résolu.
Tu te rends compte, pour un gars comme ça, ça doit être le graal le plus total.
Et il a dit, c'est une révolution complète de la façon dont je vois les mathématiques.
Mais quand tu discutes avec des chercheurs, notamment en médecine,
ce qui leur manque à tous, c'est de la data. Ils n'ont pas suffisamment de data, mais on voit quand même, si un jour on a des médicaments moins chers, si un jour on comprend mieux le fonctionnement de la Terre, notamment avec tout ce qui se passe, les canicules et tout ça.
Des médicaments moins chers et plus efficaces, avec des traitements plus ciblés.
Meilleure compréhension de l'univers. Si on a une énergie plus propre, c'est grâce à l'IA tout ça. Et aujourd'hui, alors, en astronomie, en physique, des outils quotidiens pour les chercheurs. Alors, attention, tout n'est pas merveilleux. Il y a des biais. Parfois, je me souviens toujours d'un chercheur de l'ENS qui me dit un jour, l'IA me résout une équation. Je dis, c'est incroyable. Comment je n'ai pas compris. En fait, l'IA, elle avait fait comme un élève un peu malin. Elle a dit, tiens, toutes les conditions pour faire l'équation, il y en a une, elle m'embête vraiment. Je la zappe et puis j'y arrive. Et lui, il dit, c'est incroyable. Elle y est arrivée. Et quand il a remonté le raisonnement, il dit, ah bah oui, s'il m'enlève la condition, moi aussi j'y arrive. Mais voilà, donc il y a quand même quelques biais, il faut faire attention sur l'éthique, etc. Mais voilà, de dire, je ne savais pas qu'ils avaient sorti ça aujourd'hui, mais de dire, voilà, l'IA, alors oui, relation client, ça marche moins bien, on a les cas
mais dans les mathématiques et la recherche, c'est formidable.
Recherche, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'était mon coup de cœur.
Alors, on passe au coup de gueule maintenant, les amis, attention, Christophe. Ton coup de gueule.
Il est un peu lié à ce que tu viens de dire et je partage tout à fait ton point de vue sur les avancées notamment en médecine, en prévention, etc. Et je pense que effectivement à la lumière aussi de ce que Jean-Baptiste dit sur la une du Monde diplomatique, je crois que moi j'ai un coup de gueule par rapport au AI washing qui a pu être largement utilisé, notamment le fait que un très très grand nombre d'entreprises ont utilisé l'IA comme une bonne excuse pour expliquer un certain nombre de licenciements alors que elles avaient des résultats qui étaient pas bons et qu'on sait très très bien que avant qu'on ne puisse, parce qu'en observant la réalité de ce qu'est la mise en œuvre des outils IA dans les grandes entreprises, avant qu'on ait une capacité à supprimer des postes, il y a une vraie réflexion holistique. Il faut repenser les process. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'était une excuse un peu facile qui a, je pense, créé une grosse inquiétude sur le marché.
Et qui a rendu encore plus impopulaire l'IA. Voilà. Parce que les gens se disent, regardez, là, on a vraiment des exemples complets d'entreprises qui licencient grâce ou à cause de l'IA.
Voilà, et donc ça crée une animosité qui est aussi alimentée par cette fascination qu'on a pour l'outil, mais on se dit, il est quand même capable de faire des choses, alors qu'il y aurait plutôt un travail beaucoup plus important à mener de dire finalement en quoi ces outils-là vont pouvoir aussi vous aider, faire votre travail différemment et repenser, avoir un discours un peu plus positif. Et quand au même moment on voit effectivement les milliards de dollars couler sur les États-Unis, l'introduction en bourse de SpaceX qui a créé 4000 millionnaires dans la Silicon Valley, qu'on discute avec des gens là-bas, on a vraiment quand même l'impression que cet argent, en fait, il est quand même capté par un nombre très limité de personnes et qu'on a quand même une responsabilité aussi, c'est de se dire en quoi cette productivité, ces financements vont permettre aussi de développer des entreprises et de faire en sorte que
toute cette valeur soit pas uniquement captée par le top 1%. C'était le moment un peu socialiste, ce qui m'arrive pas souvent. Par je trouve qu'il y a un danger qui peut faire en sorte qu'on ait des unes comme celle que Jean-Baptiste mentionne et qui serait très contre-productive. Donc on a aussi cette responsabilité-là.
Voilà le coup de cœur de Christophe qui naturellement peut s'enchaîner avec celui de Cédric finalement puisque
moi je vous trouve quand même d'une mansuétude presque suspecte parce que il faut le dire enfin moi mon coup de gueule c'est de l'hallucination l'hystérie collective autour de valorisation de choses qui je dirais pas qui ne valent rien parce qu'on voit qu'il y a de la valeur d'usage à toutes ces choses mais à aucun moment personne n'arrive à faire la règle de trois entre ce que ça fait ce que ça vaut le service que ça rend est-ce que ça peut rapporter et donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des entreprises, je parle des géants des LLM et des autres, qui investissent ou annoncent investir ou cherchent de l'argent pour l'envoyer, mais à fournée entière, dans des investissements d'infrastructures à venir. Parce que, rappelez-vous, hein, toutes les annonces qu'on vous a faites en 2023, les data centers, ils sont pas encore ouverts quasiment. Tout ça pourquoi? Pour justifier une valorisation boursière qui n'a pas d'autre sens. Enfin, c'est un truc de fou. Alors, tant que c'est des gens, tu vois, qui sont dans leur bac à sable, en train de se mesurer le zizi pour savoir qui a la plus grosse, etc., c'est pas très grave. Le problème, c'est quand ça vient percuter l'économie réelle. L'économie réelle, c'est le prix de mon prochain iPhone. L'économie réelle, c'est évidemment toutes les entreprises qui vont avoir du mal à développer des trucs. Parce que
c'est l'énergie.
Il y a l'énergie. Alors nous, on est moins percutés par l'énergie.
Non, mais par exemple, aux États-Unis, on a vu que ça pouvait avoir un impact.
Oui, mais ça leur apprendra à pas savoir faire de l'infrastructure.
Ouais, c'est clair.
Si
ouais,
mais bon, voilà. Mais tout ça pour un truc qui finalement tourne presque dans le vide. Et on le voit, on voit des annonces. Quand Meta annonce, je vais mettre, je sais pas combien, 34, 54 milliards, etc., dans de l'infra. Et que dans le même temps, tu vois ces géants qui créent de l'infrastructure et qui tout à coup le louent aux autres. Mais alors, pourquoi l'ont-ils construite? Ils l'ont pas construit pour le louer à Anthropic, à OpenAI et aux autres. Donc, il y a un problème. Moi, je vous dis, quand Meta va annoncer un de ces quatre matins que finalement, tout ce qu'ils ont de nouvelles infra, ils vont le louer à Anthropic, à un moment, tout ça va décrocher. Oui. Et le problème, encore une fois, je l'ai déjà dit à ce micro, c'est que ces entreprises sont arrivées, je parle pas de OpenAI et des autres, sont arrivées à des niveaux de valorisation tels qui représentent quoi? 40% du S&P 500 aux États-Unis, donc 20% de la valorisation de toutes les sociétés cotées dans le monde. Ça veut dire que là encore, on va percuter le monde réel. Et c'est comme si on n'avait rien appris. Souviens-toi, il y a 25 ans, je parle à Fred, quand tout à coup, on s'était mis à faire de la surcapacité sur Internet, Cisco, tous les autres, etc. Ouais. Et là, ça a été terrible. Les télécoms, ils peuvent ressortir tous ces vieux dossiers avant qu'on les mette dans le modèle de Jean-Baptiste.
Ne me chauffe pas trop là-dessus, s'il te plaît.
Pénotoire, synoptique.
Voilà, et on sait ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai, on sait que quand tu fais de l'infrastructure, tu ne sais pas à quel moment est-ce que t'en as trop fait. Il faut en faire un peu trop pour s'apercevoir quand t'en as fait trop. Mais là, on le sait, on le voit. OpenAI, Anthropic et les autres, c'est quoi? C'est 2-3 gigawatts d'inférence et on nous annonce qu'on va faire 100 gigawatts de son... Enfin, ça n'a absolument aucun sens.
Ah non, mais franchement, non mais c'est totalement d'accord avec toi, et c'est très très clair, très bien expliqué.
Non mais ce qui est génial et qu'il dit pas assez, c'est les investissements circulaires.
Bien sûr.
Oui. Alors oui. C'est parce que là-dedans, en plus, il y a de l'investissement
circulaire. Oui, bien sûr.
Mais Oracle qui est
de. Je dirais presque l'investissement consanguin.
Non, c'est circulaire parce qu'en fait, c'est véritablement à la fin, t'as Nvidia qui investit dans des entreprises qui vont racheter du truc, qui vont racheter du Nvidia.
Oui. Ça ménage à trois. Ouais. Hein, c'est
Oracle achète du Nvidia pour faire du OpenAI qui rachète et aussi les locations de serveurs qui sont aussi un autre.
Ouais. Donc 2026-27, la bulle ou pas?
Ça va exploser. À un moment, il y en a un qui va éternuer et tout le monde va s'enrhumer.
Je pense pas que ça explosera.
JB dit non.
Non, mais j'ai déjà dit à ce micro, moi, ce que je pense qu'il va avoir, c'est ça va être une explosion très douce de la bulle qu'on va pas, tu sais, comme quand t'as une chambre à air qui est juste légèrement crevée, qui se dégonfle un peu et
tu... Mais c'est pas le ballon qui explose.
Non,
quoi.
Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ces grosses sociétés, elles vont faire des downturns qu'elles vont cacher par des micmacs comptables et
peu avouables.
Et du Hollywood accounting. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein d'autres startups qui vont se faire racheter. Donc, tu vois, t'as plein de gens, tout l'écosystème, une façon, tu vois, un jour, on pourrait faire une demi-heure sur comprendre les analyses de rachat de boîte et du prix du rachat de boîte et quel est le vrai prix, hein, et tu te rends compte qu'en fait il y a une partie, t'as le VC qui allait appeler en disant il faut que tu récupères ça, etc. Et c'était la spécialité.
Donc et le rachat et l'assèchement aujourd'hui aussi des fonds.
Et l'assèchement des fonds.
Oui. Donc voilà.
Donc pour moi c'est assez important de parler de ça. Moi je vois pas une bulle, je vois pas une explosion à la subprime.
Mais par exemple, dis n'importe quoi, Nvidia qui pourrait racheter OpenAI, quoi. Toi tu vois un truc
alors,
comme ça.
Non, mais tu vois OpenAI qui va se sentir obligé de devoir par ses investisseurs acheter quasiment toutes les autres petites boîtes qui ont eu des valos complètement délirantes. On parlait d'Eleven Labs tout à l'heure, par exemple. Et parce qu'en fait, ils ont les mêmes investisseurs et l'investisseur, pour pouvoir justifier son fonds, va te dire attends, s'il te plaît, tu viens récupérer ça, etc. Et donc tu vas en fait avoir, parce qu'il y a pas mal de il y a quand même beaucoup d'investissements hors les grands. Hein, tu prends, enlève les grands, t'as quand même plein d'investissements dans plein de trucs. Et là, moi, je vois bien que t'auras une certaine concentration que tu vas avoir. Et puis tu vas avoir.
Mais est-ce que les Anthropic, les OpenAI, etc. resteront? Il peut y avoir plusieurs acteurs comme ça à terme.
Bien sûr.
Bien sûr.
Ok.
Ça va être compliqué. Parce que en face, ils ont du Google, du Microsoft, qui eux ont déjà utiliser de l'infra.
Je pense que ça va être compliqué.
Et n'oubliez pas, tous ces gens qui s'introduisent en bourse, c'est d'abord que pour que vous alliez payer leurs investisseurs.
Ils peuvent faire s'écouler parce que justement, il y a ce côté circulaire. Pour l'instant. Et dans la circularité, tu as toujours un Nvidia, un Oracle, un Microsoft, un machin qui maintient tout ça, qui maintient la roue, le mouvement de la roue.
Le mouvement de la roue.
Exactement.
JB.
Les boîtes françaises, elles se bougent pas assez.
Aïe.
Les grosses boîtes françaises.
Ça avait bien commencé.
Ah ouais, mais là, franchement, tu vois, il y a une énergie, il y a des startups, il y a plein de choses, il y a des trucs qui sont des vrais trucs. Et là, franchement, quand tu vois, pour avoir vu pas mal du côté de Scaleway, la consommation des grosses boîtes du CAC 40 dans l'IA et même dans la tech, c'est d'une timidité absolument hallucinante. Tu pouvais le justifier il y a quelques années. Maintenant, tu peux pas. Enfin, j'ai encore des gens qui m'ont expliqué que non, les Américains ne peuvent pas espionner tes données. C'est inadmissible. 15 ans après Snowden, 20 ans après Wikileaks, et là, on le sait, Cloud Act, Patriot Act, FISA 702, et tu dis, oui, non, mais tu comprends. Et mon coup de gueule, évidemment, Bleu Sense et ces autres trucs comme ça. C'est inadmissible.
Ça sert à rien, tout ça?
Non, mais surtout, c'est de la... je suis pire que ça, pour moi. C'est de la traîtrise, vraiment. C'est-à-dire que, vraiment, c'est abusé. C'est
inadmissible. Alors, rappelons ce que c'est. Hein, ce sont ces clouds.
Mais c'est même pas juste ça. L'achat.
Non, mais
continue.
Tu parles de Blue AdSense.
Oui,
c'est
du Google déployé sur des infrastructures soi-disant souveraines.
Française.
Voilà, ou c'est la même chose avec.
Opéré par Thales pour France, et puis.
Et la même chose avec Azure, et le Microsoft, troisième, c'est Amazon qui te dit qu'ils font des trucs souverains. Enfin, le SSH, il passe les frontières. À un moment, quand tu mets une backdoor, etc. Mais c'est même en général, tu vois, t'as encore des grosses boîtes françaises qui utilisent Palantir. J'ai entendu que l'Espagne allait interdire l'utilisation de Palantir. C'est évident. Enfin, comment tu continues à faire ça? On est encore sur des déplacements très très mous et notamment moi j'ai pas mal de boîtes du CAC 40 qui viennent me demander qu'est-ce que tu ferais, et moi la première question c'est est-ce que ton CTO il est à ton board ou à ton COMEX. Il me dit mais ton DSI tu veux dire? Non, je parle bien déjà il y en a plein qui ont même pas leur DSI au niveau du board, et là non, je te dis le CTO. En fait, tant que tu verras l'informatique comme un centre de coût et pas un centre de valeur et de gains et de gains incroyables,
tu t'en sortiras pas.
Donc tu vois, et je peux le dire quasiment à toutes les boîtes du CAC 40, même si je les connais pas toutes,
moi je te dirais sauf quelques industriels, je vais les citer: General Electric, Sanofi, Michelin. Okay. J'en ai un quatrième qui est le.
Ah, mais bon, c'est vrai que. Bon.
Mais qui eux ont un vrai. D'ailleurs, les CIO sont au board et qui sont vraiment.
Et bah, tu vois, Schneider Electric, ça aurait pu être un coup de cœur. Tu vois, si on avait eu le droit de. Tu vois, c'est une boîte que je connaissais assez peu, et cette année, et sur les deux dernières années, j'ai hésité.
Le coup de gueule de Fred.
Donc mon coup de gueule,
c'est tous ces objets, dont on fantasme l'existence.
On est toujours en train de dire et Johnny Ive, qu'est-ce qu'il va penser et tout ça.
Le pendentif, la boucle d'oreille.
Le pendentif, le badge et tout ça. J'ai dit mais arrêtez, les objets sont déjà sous notre nez. Ça va être une montre, ça va être des lunettes, ça va être des écouteurs. Et ça, pour moi, ça va s'arrêter là.
Les bagues.
Ou les bagues. Mais si tu veux, faut arrêter de penser. On est toujours en train de dire ça va être quoi le nouvel objet, et de dire arrêtez de nous balader. Parce que ils sont tous en train de nous dire, là on a vu la pub Friends dans le métro, ils sont tous en train de nous balader, oui, en nous disant ça va être un truc incroyable, on sait pas ce que c'est, mais ça va être une sorte d'enceinte ou je ne sais quoi. Et moi, j'ai envie de dire, attendez, on a suffisamment de recul aujourd'hui, un peu d'expérience, pour dire non, alors à moins de nous implanter un truc dans le cerveau, la nouveauté, ça va
tourner autour des lunettes. Ça va être autour des lunettes, autour des écouteurs, autour d'une montre, autour d'une bague. Voilà, le futur device, il est sous notre nez, voire le smartphone qu'on continuera
toujours. Cédric, t'es d'accord ou pas?
Avant qu'on conclue, oui. Moi j'ai un coup de cœur.
Ah,
un dernier. Mon coup de cœur, c'est Jean-Baptiste Ockham.
Oh, c'est gentil. Oh,
Parce que les gens qui le connaissent pas le voient avec son expertise, sa connaissance, etc. Ce garçon,
ah oui.
À l'échelle du software en France, c'est Mbappé, quoi.
Ouais,
c'est ce garçon, il a 6 milliards de téléchargements sur
avec
Internet
VLC.
Au travers de
BLC. Ouais.
C'est un trésor national. Mais au travers de lui, il y a tous les gens qui font l'open source en France et qui ont non seulement le degré d'excellence qu'on connaît chez les ingénieurs français, mais l'éthos qui va avec. Et ça, je trouve ça...
C'est très gentil. Je vous conseille d'écouter le De quoi je me mêle, où on a parlé de l'histoire de VLC il n'y a pas
longtemps. Exactement.
Dans le plateau d'à côté.
Mais c'est vrai.
Et sans compter Kyber aujourd'hui.
Oui, mais.
Je t'avoue que ici même, hier soir.
C'est ta fête, hein, ce soir, t'as vu?
Non, mais ici même, hier soir. On avait des gens sans leur dire que tu étais là aujourd'hui. Et tout d'un coup, ils se sont mis à parler de Kyber. Enfin, on était hors micro, je crois. Mais on commençait à parler de Kyber.
Et en fait, il y a plein de mecs bien meilleurs que moi en France. Et il y a des gens dont on ne parle pas assez. Et des vrais génies comme Fabrice Bellard, par exemple, des choses qui se passent et plein d'autres choses.
Pierre, le patron de la Miade.
Voilà, il y a plein de
risques. Le mot de la fin juste. Merci alors à vous quatre, mais merci à la cinquantaine de débriefeurs qui, tout au long de l'année, dans Tech & Co, chaque soir, apporte son expertise, son analyse, l'actualité aussi dans la tech. Et franchement, je crois que c'est ce qui fait la richesse de cette émission. Alors évidemment, JB, Cédric, Christophe, Fred, mais aussi tous les autres. Et voilà, et la bonne nouvelle, c'est qu'on sera là, on repartira de plus belle à la rentrée. La rentrée, ça sera le 24 août.
Oui.
19h30, 21h, on sera là, peut-être quelques petites modifications, en tous les cas, la ligne éditoriale sera la même. Merci beaucoup à tous les quatre, merci Cédric, JB, Christophe et Fred.
Et coup de cœur à tous ceux qui nous mettent des commentaires, et allez-y, parce que ça nous enrichit aussi.
Bien sûr,
tous les commentaires.
Commentaires, vous pouvez les laisser sur YouTube. Je vous rappelle que chaque jour, le replay de Tech & Co est sur YouTube. Et donc, c'est plutôt cool. Allez-y, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. On les lit, vos commentaires.